La Voix de l'Amérique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan ce soir sur le Niger, un pays désertique confronté à de nombreux défis.
Djihadistes de Boko Haram, insécurité alimentaire ou chute des cours de l'uranium, comment va le Niger dirigé depuis 4 ans par Mahamadou Issoufou ? L'amélioration des indicateurs macroéconomiques s'est-elle traduite par une amélioration de la vie quotidienne des Nigériens ? Élément de réponse dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Coup de projecteur ce soir sur le Niger. Dans notre émission, ce vaste pays enclavé de plus d'un million de kilomètres carrés, 3,9%, c'est le taux de croissance démographique, c'est énorme, alors que le pays compte déjà 17 millions d'habitants. Avec cette démographie fulgurante, le Niger reste l'un des pays le plus pauvre au monde. Le programme des Nations Unies pour le développement a classé le pays 187e, la dernière place de son classement de l'indice de développement humain. À l'indice sécuritaire s'est ajoutée l'insécurité tout court et les djihadistes de Boko Haram ont mené des attaques en territoire nigérien du côté de Difa et Bosso. On aura l'occasion d'évoquer ces questions tout à l'heure avec le président Mahamadou Issoufou qui nous a accordé une interview à VOA Afrique. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés en plateau mon collègue Idriss Fall qui revient justement de Niamey. Idriss, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Idriss, vous vous êtes rendu dans cette zone frontalière avec le Nigeria, un territoire poreux où les djihadistes de Boko Haram ont mené des incursions. La première fois, c'était le 6 février dernier. Avant de voir votre premier reportage, Idriss, quel est le sentiment sur, évidemment, la situation sur le terrain ? Boko Haram est-il réellement en déclin, comme le clament les uns et les autres ?
En tout cas, ils disent, les autorités comprennent que c'est une guerre asymétrique, donc c'est une guerre qui va prendre beaucoup de temps, même s'il y a une offensive menée par le Tchad, le Niger et le Cameroun. Tout le monde sait que ce n'est pas terminé tout de suite, Nicolas.
Merci Idriss pour cette introduction. Je vous le lisais, vous vous êtes rendu au Niger à Difa et côté nigérian de la frontière. On regarde votre reportage, on en parle juste après.
À cause des attaques de Boko Haram, l'état d'urgence est en vigueur dans l'extrême sud-est du Niger. Dès l'arrivée à l'aéroport de Difa, les hélicoptères de combat tchadiens annoncent la couleur. Sur la route vers l'état-major, les soldats nigériens sont visibles partout. Le colonel Moussa Salao Barmou, commandant de la zone de défense numéro 5, est chef militaire de la région de Difa.
Effectivement, donc depuis là, nous avons été très actifs dans un premier temps à démanteler tous les réseaux de soutien au groupe Boko Haram. À ce titre, donc, nous avons interpellé beaucoup de personnes qui ont été mises à la disposition du service central de lutte contre le terrorisme.
La frontière est à quelques encablures. La route chaotique et poussiéreuse est l'une des mieux protégées avec près de 10 postes militaires jusqu'à la rivière Komadougou qui sépare le Niger de l'état de Yobe au Nigeria. Le pont Doutsi est la seule porte d'entrée des islamistes qui ont tenté à plusieurs reprises de le traverser. C'est la ligne de front. Le lieutenant Issoufou Marou, chef des opérations à la frontière.
Ils venaient donc en force sur la position et ils ont été frappés, châtiés et repoussés.
Plus de 25 soldats nigériens ont été tués et depuis le 6 février, les islamistes de loin tirent des roquettes dont l'une est tombée sur le grand marché de Difa. Face à l'offensive militaire, certains combattants islamistes ont déposé les armes pour se fondre dans la population. La guerre sera de longue haleine, mais l'idéologie islamiste n'a pas de frontières. Ainsi, à Niamey, à plus de 1300 km de Difa, Issoufou Bachar, ancien ambassadeur du Niger en Libye et président du parti ADP Zamounchi, défend l'application stricte de la charia.
On parle des bombardiers, mais nous pouvons prendre des otages, et nous pouvons poser des bombes. C'est le seul moyen que nous avons pour agir, parce qu'on ne va pas dormir et laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc nous organisons au Niger, il y a beaucoup d'islamistes et la charia viendra au Niger, Inch'Allah, on sera un pays et une république islamique. Ça c'est inévitable, personne ne peut l'empêcher, Inch'Allah.
Voilà pour ce premier reportage d'Idriss Fall au Niger. Alors, ce qui frappe, c'est l'absence des militaires nigérians sur le terrain. On se souvient du président tchadien, Idriss Déby, qui avait montré d'ailleurs des signes d'impatience. Idriss, c'est ce que vous ont confié les militaires nigériens sur le terrain?
Absolument, et à commencer par le ministre de la Défense, Mahamadou Karidjo, le chef des opérations sur place, Moussa Gourma. Ils ont pris les localités de Doutchi et de Damasak et depuis attendaient l'arrivée des soldats nigériens qui ne sont jamais arrivés. Et ça, c'était bien avant les élections.
Et concernant Mme Fattori, on annonçait sa reprise et des combats. Quelle est la situation à Mme Fattori actuellement?
Je n'ai pas suivi exactement. Je sais que jusqu'à Damasak, ils étaient là-bas. Je n'ai pas encore entendu la prise ni la reprise de Mme Fattori.
Et vous constatez que les militaires nigériens sont suffisamment équipés?
Apparemment, oui, mais je pense qu'on pourra en parler plus tard. C'est l'un des défis qui vont se poser au nouveau président Mahamadou Boukhari. C'est l'armée la plus puissante de la sous-région. C'est ça qu'on a l'habitude de dire, après ce qu'elle a pu faire en Sierra Leone et au Libéria. Mais depuis 2009 aussi, cette armée a prouvé l'essentiel de ses limites. Ce n'est pas seulement au plan matériel, mais le matériel, on le retrouve entre les mains de Boko Haram. Comment ça se fait, ça, on ne sait pas.
Je parlais des militaires nigériens, Idriss. Est-ce que côté nigérien, on est suffisamment équipé?
Les militaires nigériens, absolument. C'est-à-dire que, bon, dans ce que j'ai vu là-bas sur place, ils sont bel et bien, bien armés. Quand on a traversé pour aller au Nigeria, je crois qu'on a vu des cadavres qu'ils n'ont même pas enterrés et que je pense que ce n'est pas l'œuvre de couteau. Donc,
Alors Idriss, on voit évidemment les populations locales sont très affectées par cette lutte contre Boko Haram et pas seulement avec le couvre-feu qui a été imposé dans la région de Diffa, interdit aussi les motos prisées par les djihadistes pour les attaques ou encore le commerce du poivron qui servait à financer Boko Haram. Comment est la vie des populations à Diffa, Idriss?
C'est très 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 difficile. Si on prend une région dont la production agricole la plus importante c'est le poivron. L'État a interdit le commerce du poivron. Donc, ceux qui produisaient, comme ceux qui vivaient de la vente, sont là-bas avec leurs sacs, ne pas savoir quoi en faire. C'est pareil pour le poisson. Les pêcheurs qui étaient au bord du lac Tchad étaient souvent attaqués par Boko Haram, qui utilisait ces deux produits pour financer aussi sa guerre. Et donc, le commerce du poisson est aussi interdit. Les motos qui sont au moyen de transport privilégié pour toutes les populations, même de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement à Diffa, comme aussi c'est un objet utilisé par les militants de Boko Haram pour mener leurs attaques, les motos sont interdites.
Donc, et le couvre-feu, quelle est la situation après 18h?
Après 18h, la vie devient une ville fantôme. C'est le cas de le dire. Les voitures ne peuvent plus circuler et tout le monde est terré chez soi. Et les militaires sont assez nerveux dès qu'on voit un suspect. Donc, vivre à Diffa, c'est quand même si ça reprend un petit peu dans la journée, le commerce au marché a repris un peu, mais la vie est encore très, très, très difficile.
Alors Idriss Fall, hein, vous l'évoquiez, l'élection de Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, c'est évidemment cette élection du 28 mars qui a été très suivie en Afrique. Idriss, est-ce que ce résultat et cette élection va changer la donne sur le terrain?
Je pense que c'est déjà une bonne chose pour le Nigeria, qu'il y ait ce changement, d'autant que les Nigérians ont voté pour cela. Maintenant, il restera deux grands défis pour Muhammadu Buhari. Et ils sont intrinsèquement liés, c'est-à-dire remettre de l'ordre au sein de l'armée, combattre la corruption au sein de l'armée, et pour combattre Boko Haram. Et les deux sont intrinsèquement liés. Mais c'est là-bas où je crains quelques bumps sur la route. C'est-à-dire, quand on s'attaque en fait à certaines têtes qui sont corrompues au niveau de l'armée, ça peut faire quelques grincements. Et on ne peut pas combattre Boko Haram efficacement sans nettoyer au niveau de l'armée à l'intérieur du Nigeria. Ce seront ces défis.
Alors Idriss, cette élection au Nigeria, première puissance économique du continent, pays d'Afrique le plus peuplé, a évidemment été très suivie dans le monde, mais elle a été surtout très suivie par les premières victimes de Boko Haram, les réfugiés nigérians. Ce jeudi à Dakar, les Nations Unies ont appelé la communauté internationale à donner 174 millions de dollars pour venir en aide à ces réfugiés qui ont fui au Tchad, au Niger ou au Cameroun. Actuellement, on compte 192 000 réfugiés nigérians. Idriss, vous les avez rencontrés?
Absolument, et ce qu'ils racontent, ce sont des scènes d'horreur qui les ont fait fuir de chez eux, et notamment ceux qui ont fui après l'attaque de Boko Haram sur la ville de Damasak, qui est maintenant contrôlée par le Niger et le Tchad. Donc, écoutons leur témoignage.
Le village de Gagamari est situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Diffa. Des milliers de Nigérians qui ont fui les attaques de Boko Haram à Damasak vivent aujourd'hui dans ce camp de réfugiés tenu par le HCR. Une couche de poussière couvre les tentes à cause des vents de sable fréquents en cette saison. L'eau est une denrée rare, tout comme la nourriture.
Our clinic, no medicine.
Là, nous avons un dispensaire, mais sans médicaments. Nous avons aussi des problèmes avec l'eau et la nourriture qui manquent. Ils ont fui les tirs d'armes et les détonations de bombes. Pour de nombreux réfugiés, les membres de Boko Haram ne connaissent pas de marabout, pas de chef ou de paisible citoyen. Ils tuent dans les mosquées, ils tuent dans les champs. Le seul salut, c'est de fuir. Une femme rescapée d'origine Kanuri raconte sa tragédie.
J'ai vu de mes propres yeux, il y a beaucoup qui ont été tués. Il y a des jeunes, des femmes, des plus grands. Ils ont tué. On est sortis avec nos enfants. Ceux qu'on a pu sauver, on les a emmenés avec. Et aussi Boko Haram, ils ont des enfants qui sont restés avec eux. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été otages de Boko Haram, qui sont dans les mains de Boko Haram. On a perdu comme 400, 500 comme ça.
Mais pour survivre au milieu de nulle part, les réfugiés ont improvisé un marché en bordure de route à Gagamari.
Le reportage d'Idriss Fall à la frontière entre le Niger et le Nigeria. Merci Idriss. Alors, est-ce que ces réfugiés ont espoir de rentrer rapidement chez eux?
La réponse est partout. On me dit, si la sécurité revient pour sûr, nous allons rentrer. Il y en a eu quelques-uns qui ont repris les voitures pour repartir voter. Mais ils sont revenus après, donc ils attendent que la sécurité soit rétablie. Même à Damasak, pour le moment, on attendait toujours l'arrivée de l'armée nigériane qui ne l'avait pas encore faite.
Merci beaucoup Idriss Fall pour cet éclairage. Je rappelle que vous vous êtes rendu au Niger, précisément dans la région de Diffa. C'est le moment de marquer une pause sur VOA Afrique dans ce Washington Forum. On se retrouve juste après pour l'interview de Mahamadou Issoufou, le président du Niger.
Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne.
Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle.
Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes.
De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales.
Washington Forum.
Washington Forum.
Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
Retour dans ce Washington Forum. Gros plan cette semaine sur le Niger. Ici en plateau à Washington, Idriss Fall de VOA Afrique, avec qui nous avons évoqué tout à l'heure la situation sécuritaire dans la région de Diffa. Mais à présent, parlons politique, puisque ce 7 avril marquait le 4e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Mahamadou Issoufou, le président du Niger qui a longtemps été opposant. Il était candidat du PNDS à l'époque. Il avait promis une renaissance du Niger lors de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, certes, les indicateurs macroéconomiques sont au vert, mais les Nigériens vivent toujours dans des conditions difficiles. La menace Boko Haram est un défi supplémentaire pour un État déjà bien fragile, affecté notamment par la chute du prix du pétrole et de l'uranium. Autant de sujets sensibles que j'ai abordés avec le président nigérien. Voici tout de suite l'entretien que nous a accordé Mahamadou Issoufou ici, lors de sa visite à Washington. On regarde et je vous retrouve juste après. L'actualité, bien évidemment, c'est la lutte contre Boko Haram. Aujourd'hui, diriez-vous que la menace Boko Haram est totalement éliminée au Niger?
Je pense que Boko Haram, certes, n'est pas éradiqué, mais Boko Haram a été très fortement affaibli suite aux interventions de la force mixte multinationale qui comprend le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Le plus important, c'est que je constate que Boko Haram est en train de reculer partout à l'intérieur du Nigeria. Au Niger, où ils ont essayé de nous attaquer le 6 février dernier. Nous les avons repoussés à Bosso, à Diffa. Nos forces ont pris le dessus. Nos forces ont pris un ascendant sur Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram n'a pas d'avenir. L'avenir de Boko Haram est derrière elle. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, nous pouvons dire que nous verrons la fin de Boko Haram dans la région du lac Tchad, avec la mutualisation des moyens des différents pays que je citais et qui font partie de la force mixte multinationale, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger. Je pense qu'ensemble, nous vaincrons Boko Haram et nous allons donner pour l'Afrique un exemple, un modèle de mutualisation des moyens entre pays pour faire face aux menaces comme celle du terrorisme.
Est-ce que la victoire du candidat Buhari à l'élection présidentielle nigériane peut apporter un plus sur le terrain ?
Écoutez, d'abord, je dois me féliciter du bon déroulement des élections au Nigeria. Vous savez, en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, on craint des conflits post-électoraux. Or, je viens d'apprendre que le président Jonathan a téléphoné au général Buhari qui a gagné les élections pour le féliciter. Donc je ne peux que me féliciter de la bonne issue des élections au Nigeria. Et je pense que ces élections permettront de créer les conditions pour que le Nigeria combatte de manière encore plus efficace Boko Haram.
Concernant Boko Haram, c'est vrai qu'il y avait notamment eu beaucoup de discussions concernant l'intervention servale française au Mali, puis la force internationale, la MINUSMA. Est-ce que vous considérez que Boko Haram, c'est un problème militaire africain ou que les Occidentaux doivent également aider militairement sur le terrain ?
Non, mais Boko Haram, c'est une organisation terroriste. Et au Mali, quand les Français sont intervenus dans le cadre de l'intervention servale, c'était pour combattre le terrorisme. Le terrorisme n'a pas de frontières, que ce soit le fait de Boko Haram, le fait de ACMI ou le fait de l'État islamique. Il faut que le monde entier se mobilise pour combattre Boko Haram, quel que soit l'endroit.
Et la mobilisation est-elle suffisante actuellement ?
La mobilisation est suffisante. En tout cas, au niveau de la sous-région, on est très bien mobilisé. Maintenant, comme vous le savez, au dernier sommet de l'Union africaine, nous avons voté une résolution dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la mise en place de cette force mixte multinationale composée des pays que j'ai signalés. Maintenant, nous attendons que cette résolution soit avalisée également au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin que légalement les pays qui interviennent dans le cadre de la force mixte multinationale soient couverts légalement. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette résolution. On a besoin aussi de cette résolution parce qu'on a besoin d'un accompagnement des Nations Unies sur le plan matériel et financier, à l'image de ce qui s'est passé dans le cadre de la MINUSMA en Somalie.
Vous avez été l'un des premiers à appeler une intervention internationale en Libye, si le gouvernement libyen le demande. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux Occidentaux, il faut finir le travail ? On se souvient évidemment du régime Kadhafi qui est tombé après l'intervention internationale.
Effectivement, je suis de ceux qui pensent que le service après-vente n'a pas été fait en Libye. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et très tôt, en 2011, en pleine crise libyenne, j'avais attiré l'attention sur les risques que nous courons en Libye, sur le risque de mettre en place des solutions qui seraient pires que le mal. Et ce que je voulais dire, c'est que je sentais que la Libye allait se somaliser, l'État allait disparaître. C'est le cas aujourd'hui. On a deux gouvernements, un gouvernement à Tobrouk, un gouvernement à Tripoli. J'avais les craintes aussi que le pouvoir tombe entre les mains des terroristes. C'est plus ou moins le risque qui existe également aujourd'hui, avec même la présence de l'État islamique en Libye. Donc face à ce chaos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous, ce que nous proposons au niveau des pays frontaliers de la Libye, c'est de créer les conditions de la réconciliation de toutes les parties libyennes. On ne peut pas travailler avec deux gouvernements. Il faut que le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli s'entendent. Il faut que toutes les forces modérées libyennes, y compris les kadhafistes, s'entendent. Et comme ça, on mettra en place un État, on mettra en place une transition qui pourra combattre efficacement le terrorisme en Libye, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le sud libyen est devenu un sanctuaire pour les terroristes. On sait aussi que dans la Cyrénaïque, ça a de tout temps été un bon réservoir dans lequel recruter Al-Qaïda, vers Benghazi, vers Derna, etc. Donc il faut isoler ces terroristes et je ne vois pas comment on peut vaincre le terrorisme, y compris en Libye, sans intervention extérieure. Pour que cette intervention ait des chances de réussir, il faut qu'à l'intérieur de la Libye, il y ait un État, il faut qu'à l'intérieur de la Libye, les forces modérées se réconcilient. Et c'est un peu ça, je crois, que l'envoyé des Nations Unies a pour mission de faire, l'Italien, qui est chargé par le secrétaire général des Nations Unies, de mener ce dialogue-là entre les parties libyennes modérées.
Vous avez été l'une des voix africaines les plus fortes à se prononcer contre les attaques de Paris. Vous aviez notamment déclaré « Nous sommes tous Charlie » et on se souvient des événements de janvier dans votre pays avec des violences, des morts et des églises brûlées. Est-ce que votre déclaration était une erreur à l'époque, selon vous ?
Non, ma déclaration est très claire. C'est que je suis un fervent musulman et je ne suis pas d'accord avec l'image que les terroristes donnent de ma religion. Je suis indigné par ce que les gens sont en train de faire au nom de ma religion, au nom de l'islam. L'islam ne signifie pas qu'il faut violer les femmes. Violer les femmes, c'est donner une mauvaise idée, une mauvaise image de ma religion. Tuer des gens innocents, c'est donner une mauvaise image de ma religion. Vous savez, l'islam dit tuer un seul homme, c'est tuer toute l'humanité. Égorger ses pères et mères, c'est pas de l'islam. Et c'est ça qui m'indigne, parce que ma religion est traînée dans la boue, ma religion est avilie par le terrorisme. Ma déclaration n'avait pas d'autre signification que de dire cela.
Et sur les événements de Niamey, par exemple, ces églises brûlées, c'était des extrémistes, c'était un mécontentement important.
Vous savez, dans tous les pays, il peut y avoir des réactions de ce type. Ces réactions ont eu lieu effectivement au Niger les 16 et 17 février. Quelques forces qui ont manipulé certainement les manifestants.
Nous disions tout à l'heure, vous allez fêter votre 4e anniversaire à la tête du pays. À l'époque, vous parliez de renaissance dans votre programme et vous souhaitiez créer 50 000 emplois par an pour les jeunes. Où en êtes-vous ?
Oui, donc depuis 4 ans que nous sommes en train de mettre en œuvre le programme de renaissance, nous avons remporté beaucoup de succès malgré les chocs, parce qu'on a eu des chocs extérieurs, le choc du terrorisme, le choc des changements climatiques, parce qu'on a enregistré beaucoup d'années de sécheresse. Même cette année, 2014, a été une année de sécheresse. Mais en dépit de ces chocs, nous avons réussi la mise en œuvre de notre programme. Par exemple, nous avons stabilisé nous avons préservé la stabilisation de la situation macroéconomique de notre pays. Nous avons un bon taux de croissance. Sur les 4 ans, en moyenne, nous avons une croissance de 6%. Nous avons maîtrisé l'inflation en dessous de 3%. Nous avons maîtrisé le ratio de notre dette par rapport au PIB. Nous avons fait beaucoup d'investissements, en particulier des investissements structurants dans les routes, dans
les rails,
dans les rails, le chemin de fer, dans le cadre de la boucle ferroviaire Cotonou,
le Bénin, Cotonou, oui.
Au Bénin, Niamey, Ouaga, Abidjan, et puis Lomé. Nous sommes très avancés dans la mise en place du barrage de Kandaji. Nous avons une centrale thermique au charbon de 600 MW que nous allons construire. Donc, sur le plan des infrastructures, c'est une grande réussite, la mise en œuvre du programme de renaissance. J'allais oublier d'ailleurs la fibre optique qui permet de réduire la fracture numérique au Niger. Ensuite,
mais pour l'emploi des jeunes.
J'arrive. Oui. L'autre réussite également, c'est l'initiative 3N.
Les Nigériens nourrissent.
Les Nigériens. J'ai promis que sécheresse ne serait plus synonyme de famine au Niger. J'ai tenu ma promesse. Depuis 4 ans, nous avons connu 3 années de sécheresse et il n'y a pas eu de famine. Donc cette initiative, cette révolution verte est une grande réussite. Les promesses que j'ai faites dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour les populations, ces promesses ont été tenues. Et la mise en œuvre de tout le programme dans ces secteurs-là a pu créer des emplois. C'est pour répondre à votre question.
Mais les 50 000 dont il était atteint.
Nous avons créé plus de 400 000 emplois en 4 ans. Or, l'objectif du programme, c'était de créer 250 000 emplois sur 5 ans. Vous voyez bien que là, nous avons largement dépassé les objectifs du programme.
Un des points noirs concernant l'emploi concerne évidemment l'uranium, le site d'Imouraren qui est fermé par le géant français Areva. Les employés sur place, très peu resteront embauchés par le géant français. Prévoyez-vous des mesures d'accompagnement pour ces employés ?
Oui, il y a des mesures d'accompagnement qui sont prévues. Il y a des indemnités assez confortables qui sont données à ceux qui vont devoir partir, parce que c'est une décision douloureuse que nous avons été appelés à prendre. Compte tenu de la situation de dépression que connaît le marché de l'uranium, nous ne pouvions pas mettre sur le marché, sur un marché déprimé, une nouvelle production de 5000 tonnes d'uranium. Ça allait entraîner encore un autre effondrement des prix, et le faire, ça serait tout simplement brader les ressources d'uranium du Niger. Et c'est pour cela que nous avons décidé avec Areva de reporter la mise en exploitation de Mouraren, que nous estimons autour de
Vous dites toujours 2020
19, 2020, tout dépend bien sûr du rythme auquel la reprise du marché de l'uranium va se faire, mais c'est un peu cette échéance qu'on a prévue. Mais surtout ce qu'il faut souligner, c'est que nous avons négocié dur avec Areva pour équilibrer le partenariat entre Areva et le Niger. Je pense qu'avec le nouvel accord qu'on a conclu avec Areva, le Niger peut recevoir plus de ressources de l'exploitation de l'uranium.
Monsieur Imouraren, certains estiment que vous avez bradé le patrimoine national en, par exemple, ne remettant pas en vente, par exemple, ce site. Pourquoi le laisser à Areva ?
Non, on n'a rien bradé du tout, puisque nous sommes liés par des accords qui ont été conclus alors qu'on n'était pas encore au pouvoir. L'État, c'est une continuité. Nous avons, Imouraren bénéficie d'une convention d'exploitation qui a été signée sous le régime précédent. Mais la continuité de l'État nous impose de respecter les accords précédemment souscrits. Mais le plus important, c'est de retenir que nous avons équilibré désormais les relations entre Areva et le Niger. Nous sommes dans une situation de relations gagnant-gagnant.
Vous serez jugé sur votre bilan à la fin de votre mandat. Est-il suffisamment bon, selon vous, pour se représenter devant les électeurs ?
Le bilan est excellent. Le bilan est excellent. Et quand on voit un peu le bilan de notre gouvernement, de manière absolue, on ne se rend pas compte. Mais quand on analyse le bilan de manière relative, en le comparant au bilan des gouvernements précédents, mais ce qu'on a fait, c'est énorme. Je vous donne un exemple. Dans le secteur de l'éducation, en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les classes par exemple, à la fin de mon mandat, en 5 ans, j'aurais fait 15 000 classes. Alors que le gouvernement précédent, qui a géré le pays de 2000 à 2010 en 10 ans, a fait 3 000 classes en 10 ans et 15 000 classes en 5 ans. Vous voyez la différence, c'est énorme. Et bien, le rapport, la proportion est la même dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'accès à l'eau et à l'assainissement, ou le secteur de la santé, ou en termes d'infrastructures routières, c'est à peu près la même proportion. Donc quand on compare ce qu'on a fait à ce que les autres ont fait avant nous, ça met davantage en relief la réussite de la mise en œuvre du programme de renaissance.
Il ne fait aucun doute que vous serez le prochain candidat à la présidentielle du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Pourquoi ne pas l'annoncer ?
Mais je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun doute. C'est au Congrès de décider. Je ne sais pas quelle sera la décision.
Mais vous avez envie ?
Je ne sais pas quelle sera la décision du Congrès du Parti du PNDS. Donc attendez, soyez patient un peu, que le Congrès se tienne.
Est-ce qu'aujourd'hui, Ama Amadou est votre principal adversaire ?
Non, pas du tout. Il me semble qu'il était troisième aux dernières élections. Il y avait un autre qui était second et qui était au second tour face à moi en 2011. Non, je ne le considère pas comme un adversaire, comme mon principal adversaire.
Lui dénonce une justice politique avec notamment cette affaire de trafic de bébés. Que répondez-vous ?
Je ne commente pas les affaires de justice. La justice est indépendante au Niger. C'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ça.
Monsieur le Président, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà pour cet entretien avec Mahamadou Issoufou, le président du Niger sur VOA Afrique. Idriss, Mahamadou, principal opposant, oui ou non ?
Bon, ils sont nombreux. Hein. Il y a Mahamadou qui a des problèmes d'ADN à régler avec la justice. Il y a Seni Oumarou, il y a Mahamane Ousmane et même notre ami, peut-être, Maître Seley Oumarou. Donc il y a de nombreux candidats qui veulent en fait postuler pour faire face à Mahamadou Issoufou.
Et on suivra ça, évidemment. Voilà, ainsi va s'achever ce Washington Forum. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. On va remercier Michel, Joseph, Linda Ringe et Scott Huey pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à Idriss Fall. Retrouvez-nous, évidemment, sur notre site voaafrique.com. Et nous continuons la discussion sur Facebook. Je vous dis à très bientôt sur VOA Afrique.